Tu vois, je pourrais ouvrir un livre à cette heure-là, mais je préfère écouter l'agité du local.
C'est vrai, des belles histoires, mais aussi de beaux personnages qui sont en fait des vrais gens d'ici.
Aujourd'hui, on parle musique, flamenco, danse orientale, et on ne le fait pas seul, on le fait avec nos deux invités d'aujourd'hui qui représentent l'association Andaluna Danse de Laval. À mes côtés aujourd'hui, Rocío Barras, professeur de danse, et Muriel Fabre, présidente de l'association Andaluna Danse. Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Margot. Bonjour.
Donc on parlera ensemble de l'association, mais aussi du spectacle La Perle Bleue que vous présenterez à la salle polyvalente le 15 mai à 20h30. En milieu d'émission, on retrouve mon acolyte Lucie. Bonjour, comment tu vas ?
Bonjour, très bien et toi ?
Bah, très bien, merci. On te retrouve tout à l'heure en milieu d'émission pour l'actu en bref et la météo. Et ensuite, on reste en Mayenne avec notre reportage Pensée locale de la semaine. On sera au restaurant Le Belvédère à Laval qui permet la réinsertion de 7 personnes avec le dispositif Zéro Chômeur. On terminera ce temps passé ensemble avec la chronique de l'agriculture paysanne. Et aujourd'hui, c'est Ronan de la SIAP que l'on écoutera. Bienvenue à vous, amis auditeuristes, dans cette agité du local. Je suis Margot et aujourd'hui, je vous le disais, j'ai le plaisir d'avoir à mon micro Muriel Fabre, présidente de l'association Andaluna Danse à Laval, et Rocío Barras, professeur de danse au sein de l'association. Alors Andaluna Danse, c'est une association qui a été créée en 2017 et alors très bientôt, précisément le 15 mai, on va pouvoir vous découvrir à la salle polyvalente avec le spectacle La Perle Bleue, un spectacle de danse orientale et de flamenco. On y reviendra tout à l'heure, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de Andaluna Danse ? Quelle danse précisément vous proposez aux adhérents ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de flamenco.
Oui. Andaluna Danse, c'est une association qui a été créée déjà et justement pour pouvoir amener ici à Laval et en Mayenne les flamenco et la danse orientale. Ce sont deux danses que moi j'ai pratiquées depuis très longtemps, les flamenco surtout depuis que j'étais petite. Donc voilà, c'était comme ça qu'on a créé l'association, on a commencé à danser, à faire ces deux danses. Donc les flamencos et toutes les danses qui viennent de l'Espagne, et la danse orientale, surtout la danse orientale qui vient de l'Égypte.
D'accord, et justement on parle ici donc de deux danses différentes, le flamenco et la danse orientale. Et alors vous, Rocío Barras, donc vous êtes professeur de danse, vous pouvez peut-être nous dire quels sont les fondamentaux, les éléments fondamentaux de chacune de ces danses.
En fait, les flamencos, je pense qu'il est très connu en France en ce moment parce qu'il y a carrément plein des associations, des écoles, des artistes qui sont reconnus même en Espagne, que c'est, on va dire, les berceaux de flamenco. Donc, les flamencos, on a cette image des danseurs et danseuses parce qu'on va voir les deux. Et où on tape avec les pieds au sol, on fait du bruit, on fait les rythmes avec les pieds, on les fait aussi avec les mains. Et on a aussi cette sensation de danse très expressive, où on va communiquer plein de sensations et des émotions. Le flamenco, il est né carrément dans une culture très pauvre, où il avait les gitans, mais aussi pas que les gitans, mais dans un besoin d'exprimer carrément les émotions. Surtout au début, la tristesse, mais après, bah aussi la fête. Au fur et à mesure que les flamencos ont évolué, on a rajouté les instruments aussi, la guitare et les chants, que c'était les premières. Et après, la danse. Donc la danse, elle est marquée par cette expressivité, cette interprétation de ce qui se passe avec la musique et avec les chants.
Et culturellement, le flamenco, c'est aussi quelque chose, finalement, c'est un esprit très convivial.
Oui, en fait, oui, c'est basé sur, sur les origines, justement, d'un groupe de personnes, soit des familles, ou soit des gens qui travaillaient ensemble, qui ont besoin d'exprimer justement leur douleur, leur vie, leurs problèmes de vie, la nostalgie, la tristesse, les problèmes d'amour, évidemment, et que c'est partout. Et Donc c'est comme ça que c'est pas une chose privée, on va dire, le flamenco. Comme tous les danses traditionnelles, je pense, du monde, la danse orientale aussi, c'est quelque chose qu'on fait entouré des autres.
Et alors la danse orientale, est-ce qu'elle a d'autres spécificités, d'autres origines?
Ben, la danse orientale, c'est, quand on dit orientale, c'est pas bien choisi les mots, mais bon, c'est vu de notre point de vue, d'ici de l'Occident.
C'est ça.
On parle des pays surtout comme le Liban, comme l'Égypte, comme même la Turquie aussi, la Syrie. Et sont toutes des traditions aussi, des musiques qui ont évolué au long de l'histoire. Et que pendant les années, surtout les années 40-50, ça s'est fait très connu en Égypte à travers les films. Donc cette image qu'on peut avoir... justement d'une petite jupe et un espèce de haut très féminin, tout très comme très délicat, où on bouge les hanches, on bouge les épaules, et cette image carrément qu'on a des un peu de fantasmes et des danses orientales, des danses du ventre, c'est une partie, mais c'est qu'une partie de la danse orientale. Après, il y a plein de folklores différents, plein de costumes différents, plein de musiques différentes et plein de rythmes différents. Et aussi, même des instruments avec lesquels on va jouer quand on est en train de danser.
Si on revient sur le flamenco, on le disait tout à l'heure, c'est une danse très expressive qui raconte énormément d'émotions. Et je trouve qu'il y a notamment une vraie force même dans le regard.
Carrément, oui. En fait, c'est curieux parce que les flamencos, l'effet qu'il y a eu les flamencos en dehors de l'Espagne, c'est ça. Les gens qui ne connaissent pas l'espagnol, qui ne sont pas capables de traduire l'espagnol, et ils arrivent à comprendre qu'est-ce que les chanteurs ils sont en train de chanter et qu'est-ce que les danseurs et la danseuse ils sont en train de communiquer. Pourquoi? Parce que quand on est en train de danser, ce n'est pas seulement une suite de mouvements, sinon chaque mouvement, on doit les doter d'un sens très profond et pour carrément rentrer un peu en communion avec la musique.
Il y a aussi parfois quelque chose qui se joue avec les accessoires. Il peut y avoir par exemple les éventails, qui ne sont pas des éventails tels qu'on peut les imaginer. Ici, c'est une sorte d'éventail classique avec un tissu qui permet de cacher la totalité d'un corps. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais il y a aussi les sagates, qui sont comme des petits instruments que l'on met sur les doigts et dont le son pourrait rappeler des grelots. Ça participe justement au rythme, encore une fois, de la danse.
Oui, en danse orientale, c'est là où on va utiliser les sagates. Bon, aujourd'hui, on peut utiliser tous les accessoires là comme on veut. Mm. Mais pour faire un petit peu plus clair, en danse orientale, on va utiliser les sagates, que c'est comme l'équivalent aux castagnettes en danse espagnole, en flamenco, qu'on peut les utiliser. Donc les sagates, c'est comme des castagnettes mais métalliques, qu'on va utiliser pour suivre aussi les rythmes de la musique. Et les éventails, en flamenco, on va utiliser des éventails comme la même idée qu'on a des éventails qu'on peut avoir ici en France, qu'on utilise quand on a chaud. Mm-hmm. Et c'est pas en ce moment, mais on les utilise sinon. c'est ça. Donc normalement, pour la danse, ils sont un petit peu plus ronds. Mais après, il y a plein d'éléments qui viennent surtout de l'Asie. Et là, je parle en ce moment de la Chine, de Japon. C'est curieux parce que ce sont des instruments, des accessoires qui sont arrivés à la danse et qu'on commence à utiliser. Et au bout d'un moment, on croit que ça fait partie de la danse orientale ou de flamenco ou de la fusion. Non, ça vient carrément du côté, du côté oriental. Mais que, pourquoi pas, on va les utiliser justement pour amener la danse ailleurs.
Et alors si on prend le temps de parler justement du spectacle La Perle Bleue que nous pouvons découvrir le 15 mai à la salle polyvalente de Laval à 20h30, La Perle Bleue, c'est une histoire qui se racontera sur scène. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors La Perle Bleue, c'est le fondamental, une histoire d'amour. Un amour un peu contrarié, va-t-on dire. Un amour fou. Un amour qui va emmener des rives de l'Andalousie au palais merveilleux du Maroc. Donc c'est cette destinée que nous allons suivre pendant une heure et demie, avec 40 danseurs sur scène qui vont enchaîner des tableaux, qui vont enchaîner une histoire. Donc On ne va pas trop en dévoiler parce qu'il faut rentrer dans notre monde imaginaire, dans le merveilleux, dans la danse, dans les musiques, puisque nous avons le plaisir de faire et du flamenco et de la danse orientale, mais également de la fusion. La fusion, c'est un mélange des deux et que Rocio nous a concocté depuis une année. Une année de plaisir, de souffrance parfois. Allez, il faut le dire, soyons honnêtes.
Oui, parce voilà. Il faut de la rigueur finalement.
Il faut de la rigueur, il faut que tout soit parfait pour présenter un spectacle de qualité.
Et alors l'histoire se racontera donc évidemment avec des tableaux, comme vous nous le dites, est-ce qu'il y aura des parties théâtre, des parties racontées ?
Oui, on a un narrateur qui va faire suivre l'histoire au public. Donc on aura un tout petit peu des parties théâtralisées, on va dire un tout petit peu dansées, un tout petit peu, ouais, ça va être très varié, surtout parce que cette année on a mis les paquets aussi dans les côtés costumes, donc on a une équipe des chocs qui ont fait des très très beaux costumes. Et donc fait ici à Laval.
Oui, on peut le voir sur vos réseaux sociaux, oui, justement, oui. On peut suivre un petit peu.
Oui, on a une équipe de couturières, on a une équipe de logistique, on a une équipe communication. C'est une petite association, pourrait-on dire, mais qui est assez structurée, qui marche bien avec chacun. C'est compétent.
Chacun, ça fait sa part et ça marche très, très bien. Je pense que... Carrément, cet spectacle, on est très, très motivés parce que les premiers spectacles qu'on a fait, on l'a fait dans une petite salle, qu'on était très bien accueillis, on était très, très bien au Théâtre du Roi. Mais on avait besoin, vu la quantité de danseurs et danseuses qui vont être sur les scènes, on avait besoin carrément d'une salle un petit peu plus grande. Donc, cette fois, on aura carrément une belle salle. Et je suis sûre qu'on va bien profiter, on va faire plaisir au public.
Et justement, vous parliez de tableaux, parce que c'est vrai que si on parle par exemple de votre précédent spectacle, il y avait tout un jeu de lumière aussi qui était fait pour mettre en valeur ces costumes et ces chorégraphies.
C'est ça. Donc il y a une idée dans la tête qu'on espère mettre en place les jours J et pour jouer avec les lumières, les couleurs et justement les accessoires aussi que normalement c'est les accessoires qui avec les lumières ça fait les costumes et tout ça. Je pense que ça fait déjà révéler les publics facilement. Donc c'est ça l'idée depuis les débuts de la création de l'association et l'idée de faire des spectacles de danse orientale et de flamenco, c'est faire voyager les publics, c'est que ça soit pas un filage des danses l'une après l'autre de qu'est-ce qu'on fait dans l'association, sinon qu'il aille carrément quelque chose à raconter et où les gens ils aillent la sensation de qu'une fois que c'est fini le spectacle, j'ai vécu une histoire. Et après, je pars. Et si je veux, je peux rejoindre les gens de l'association et danser avec.
Et voilà justement, donc le spectacle La Perle Bleue aura lieu le 15 mai à la salle polyvalente à 20h30. L'occasion de vous découvrir sur scène, mais de découvrir aussi éventuellement l'association. Ça peut donner des idées, des envies, l'envie de vous rejoindre. Comment est-ce qu'on fait pour réserver ?
Alors, vous avez une possibilité, c'est d'aller sur Elo Asso. Sur le site La Perle Bleue, Andaluna, vous trouverez tous les renseignements. Alors, on a fait un tarif accessible, c'est-à-dire c'est 10 € pour les personnes de plus de 12 ans et 5 € pour les personnes de moins de 12 ans. Nous acceptons également les personnes qui se présenteront le soir même, puisque nous aurons une billetterie. Mais on préfère quand même que ça soit réservé sur Elo Asso, c'est un peu plus simple pour nous. Et puis voilà. Et sinon, on peut aussi nous retrouver sur d'autres moments puisque nous participerons à la fête de la musique, comme l'année dernière, l'avenue Robert Buron, le spectacle du Club. Enfin, on est dans beaucoup de choses. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur notre page Insta. Vous allez voir, on propose plein de choses, des initiations, enfin, plein de choses. Et on danse, nos cours ont lieu sur Laval, donc public lavallois, mais mayennais également.
Et donc, je rappelle le nom de l'association Andaluna Danse. Donc, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur votre site internet. Et donc, le spectacle à ne pas manquer, c'est La Perle Bleue, le 15 mai, à la salle polyvalente de Laval, à 20h30. Merci Muriel d'avoir été avec nous et merci Rocio. Merci pour ce moment.
Merci à vous.
Et je vous propose maintenant donc une petite pause musicale et on reste dans le thème d'aujourd'hui. On écoute Como el agua de Paco de Lucía, Camarón de la Isla et Tomatito.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Tese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quitar. Si lo quieres y tú fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua.
Et c'est parti pour un petit tour sur les brèves. Ce matin, le maire de Laval et président de Laval Agglomération, Florian Bercot, et Guillaume Garot, député de la Mayenne, se joignent tous les deux dans un communiqué de presse pour demander des solutions à la région concernant Expo Trans. Bon, c'est un peu flou dit comme ça, donc je vais vous expliquer en quelques mots. Expo Trans est un prestataire qui opère depuis 2022 pour le transport des enfants en situation de handicap, en remplacement de Titi Fleuris qui l'a précédé, décision qui avait été prise par la région.
Vous vous en doutez, si on en parle, c'est que tout ne se passe pas comme sur des roulettes. En fait, Monsieur Le Cornec, responsable mayennais de ce service et des chauffeurs, ont rapporté qu'à date, les salaires ne seraient plus versés. Bien sûr, nos élus Florian Bercot et Guillaume Garot y voient, je cite, « une situation économique et humaine intenable » et entendent l'exaspération des travailleurs et travailleuses. Ils appellent donc la présidente de la région, Christelle Morançais, et les élus de la majorité régionale, membres de l'exécutif, Samia Soultani et Philippe Henry, à se saisir du dossier au plus vite, sans attendre la fin du contrat à l'été. Il termine d'ailleurs le communiqué en disant, je cite à nouveau, « La recherche d'économies budgétaires ne doit en aucun cas primer sur la qualité du service rendu aux enfants et aux familles. Les conditions de travail des salariés doivent également être garanties par la mise en place d'une solution immédiate. » Fin de citation. Allez, maintenant je parle aux amateuristes de pêche parmi vous. Ce samedi 27 avril, c'est l'ouverture officielle pour la pêche au brochet. À cette occasion, la Fédération de pêche du département a présenté quelques changements dans la réglementation. Par exemple, désormais, il sera autorisé de préserver les brochets entre 60 et 75 cm et ils devront être relâchés en dehors de cette fourchette de métrique, on va dire. Sur le site de la Fédération, les pêcheurs et pêcheuses sont aussi invités à renseigner leur prise de brochet, quelle qu'en soit la taille, ce qui devrait permettre d'avoir un ordre d'idée de l'état de la ressource. Et oui, puisque l'idée des nouvelles réglementations, c'est de préserver les poissons qui seraient des bons géniteurs et donc de permettre un accroissement de la population. Puisque dans les colonnes du Ouest France, Aurélien Gibon, secrétaire adjoint au conseil d'administration de la Fédération de pêche de la Mayenne, rappelle que le brochet, je cite, est une espèce endémique menacée en haut de la chaîne alimentaire qui maintient les écosystèmes. Pour être sûr d'avoir toutes les informations, comme par exemple les parcours de pêche no-kill ou les zones interdites, je peux vous inviter à vous rendre sur le site de la Fédération de pêche du département, fedepêche53.com.
Et maintenant Lucie, un point météo.
Les éclaircies sont à prévoir cet après-midi avec quelques 12 à 14 degrés avant de descendre progressivement à 7-8 degrés dans la nuit. Le ciel va se couvrir progressivement lui aussi en laissant quelques rayons passer dans la soirée à l'est du département avant de se couvrir complètement partout sur le territoire dans la nuit. Demain, ce n'est pas une super nouvelle puisqu'il risque de faire gris toute la journée avec peut-être même quelques rares averses dans l'est de la Mayenne comme à Pré-en-Paille ou Mélèdumène par exemple. Les températures, elles, ne changent pas beaucoup. On commence à 8-9 degrés puis on passe par 13 à 15 degrés l'après-midi avant de retomber à 10-11 degrés le soir. Allez, haut les cœurs, Nathan, c'est bientôt le week-end et puis s'il fait moche, il y a toujours le cinéma pour sortir et se remonter le moral.
Merci Lucie. On continue notre émission avec notre reportage Pensée locale de la semaine et aujourd'hui on reste en Mayenne. On découvre le restaurant Le Belvédère qui a rouvert ses portes en février 2024 à Laval, permettant la réinsertion de 7 personnes. Le lieu s'inscrit dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro chômeur longue durée. Ce dispositif lancé en 2017 a permis à l'association Valhorizon 53 de proposer des contrats adaptés à des demandeurs d'emploi. En France, 60 territoires sont réhabilités Territoire zéro chômeur, dont 4 en Pays de la Loire. Le reportage est signé Isabelle Rupin de Radio Fidélité qui est allée à la rencontre de clients du restaurant et de Lucie Chauvin de l'association Valhorizon 53. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Et je vous propose une petite pause gourmande aujourd'hui au Belvédère, un restaurant un petit peu particulier à Laval, où je me jette dans un premier temps sur des clients. Repu est visiblement plutôt assez content. C'est la première fois que vous venez ?
Oui, la première fois.
Et alors, votre impression ?
C'est très bien. Rapport qualité-prix, c'est super. Le personnel est sympa, à nos petits soins.
Moi, j'ai pris le poisson et il est très bon. Le dessert aussi. Toi, tu as pris du poulet, toi ?
Du poulet, oui. C'était très bon. Tout. Moi, je trouve ça super.
On sent que les produits sont frais. C'est de la nourriture saine.
Puis je trouve qu'au niveau du prix, 15 euros, c'est quand même super.
Le principe de ce restaurant, vous le connaissez un petit peu ?
C'est pour des personnes en réinsertion, pour les remettre dans les rails du travail. Dans un quartier comme Saint-Nicolas, je trouve que c'est très bien.
C'est formidable, il faut encourager ça.
Et justement, Lucie Chauvin de l'association Valhorizon 53 vient prendre le pouls des clients. Pierre, Françoise et Martine en profitent pour la questionner.
Ça vous a plu, ouais ?
Je posais la question de savoir qui gère ça, c'est une association ?
Oui, c'est Tout à fait. Donc c'est l'association Valorisons 53. Mmh. C'est un outil de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Et l'objectif, c'est d'offrir une opportunité d'emploi à toutes les personnes qui ont envie de travailler sur le territoire. On propose que des CDI à temps choisi. Si la personne elle veut travailler 20 heures semaine ou 35 heures semaine, nous, on s'adapte à sa demande. Donc, ce n'est pas horaire choisi, c'est-à-dire que la personne ne pourra pas choisir ses horaires, mais par contre, son temps de travail hebdomadaire, lui, il est fixé avec elle. C'est l'emploi qui s'adapte au rythme de la personne et pas l'inverse.
C'est un concept assez étonnant.
Oui, oui, c'est contre tout ce qui se faisait jusqu'à présent. Hein. Moi, j'aurais bien voulu connaître ça.
C'est aperçu qu'il manquait un maillon là entre les entreprises, les personnes qui recherchaient un emploi. Et en effet, ça passe par l'adaptation en termes de temps de travail principalement. C'est vraiment nous qui proposons les CDI. Nous, après, on va aller agir en prestation pour d'autres employeurs. Les personnes, si ça leur a donné envie d'aller dans une autre entreprise par la suite, nous, on va être facilitants pour leur départ en fait. Et par contre, si elles ont envie de rester toute leur vie au sein de Valorisons, elles pourront le rester.
Si on veut refaire un repas de famille, par exemple, 12-14 personnes, on peut...
Tout est envisageable, aujourd'hui on est assez souple.
Voilà, bon, je vais laisser Françoise s'organiser pour son repas de famille. Et moi, je vais en cuisine retrouver Christophe. Christophe, vous êtes responsable cuisine, ça veut dire que c'est vous qui choisissez des menus ?
Oui, tout à fait, oui. On essaye de faire un plat nouveau tous les jours, voire deux.
Où vous fournissez-vous pour concocter ces bons petits plats?
On a quelques producteurs locaux, sinon tous les vendredis il y a le marché Place Mettmann, donc tous les légumes sont pris à la place du marché, sinon je me fais livrer par une société quand j'ai des besoins particuliers. On essaye au maximum de faire du local.
Vous aviez une formation de cuisinier avant?
Oui, oui, tout à fait, je suis dans le métier depuis une quarantaine d'années.
Qu'est-ce que vous pensez alors de cette expérimentation qui a quelques semaines pour l'instant?
Eh bien, je dirais que c'est très enrichissant, les différentes compétences de chacun. Et depuis un mois, on voit la progression de tout le monde. Ah, c'est très positif.
Merci. Aurore, quelle est votre tâche ici au Belvédère?
Je suis employée polyvalente, mais en particulier, je vais faire la pâtisserie et puis du service.
D'accord. Alors, c'est vous dont j'ai entendu dire que comme vous aviez des talents particuliers, ça se développait beaucoup sur la partie dessert, c'est ça?
Exactement ça.
Si vous êtes ici, au restaurant Le Belvédère, c'est parce que vous aviez eu une rupture avant dans votre parcours professionnel?
Oui, je suis restée longtemps arrêtée à m'occuper de mes enfants, j'en ai quatre, je me suis retrouvée seule avec eux. J'ai un handicap qui s'est développé, plus des enfants qui ont des handicaps aussi, donc c'était compliqué de rentrer comme ça dans une entreprise, ça faisait peur. Et ici, on a pu adapter, c'était très rassurant, c'est très famille et c'est super quoi. Ça m'a permis de reprendre un travail. Avec le handicap physique, c'est vrai, de faire des 8 heures d'affilée, ça peut être compliqué. Donc, de pouvoir adapter son temps de travail, c'est quand même une chance.
Voilà, Le Belvédère, c'est donc un restaurant situé en plein cœur du quartier Saint-Nicolas à Laval, qui a permis à 7 personnes éloignées de l'emploi d'en retrouver le chemin grâce à l'association Valorisons 53 qui porte ce projet. Projet qui s'inscrit donc dans l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. En France, ce sont 60 territoires qui sont réhabilités territoire zéro chômeur, dont 4 en Pays de la Loire, Pontchâteau, Saumur au quartier, Montreuil-Bellay et bien sûr Laval. C'était un reportage d'Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
On retrouve dans quelques instants notre chronique de l'agriculture paysanne avec le collectif TACT. Aujourd'hui, on écoutera Ronan, mais avant Lucie, un peu de musique.
Et avec plaisir, moi je ne sais pas vous, chers auditeurs, mais j'ai bien besoin d'un petit shoot d'énergie. Et pour ça, quoi de mieux qu'un peu de funk? C'est parti pour se dandiner sur sa chaise ensemble avec Cameo et leur titre « Nights by Night ».
We'll be right back.
Et c'est maintenant le moment de notre chronique du jour, je vous le disais, sur l'agriculture paysanne. Et aujourd'hui, c'est Ronan. Bonjour Ronan, alors qu'est-ce que c'est que la SIAP ?
Alors la SIAP, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Elle a été créée à Nantes pour les Pays de la Loire. Elle se décline en association au niveau départemental. Donc, la SIAP 53, c'est une association, elle va bientôt fêter ses 10 ans. Nous pouvons nous enorgueillir d'ailleurs d'avoir accompagné une centaine de paysans créatifs depuis 2015.
Des paysans créatifs, joli nom, mais alors qu'est-ce que c'est ?
C'est un temps financé en partie par la région Pays de Loire, ou Pôle emploi, en tant que formation professionnelle. La formation paysan-paysanne créatif a pour but de préparer les porteuses et porteurs de projets à s'installer en agriculture paysanne. Elle dispose de 3 outils. Alors, une dizaine de journées de regroupement de stagiaires pour des apports théoriques, des journées gérées par la chargée d'accompagnement, des paysans référents choisis pour leur atelier de production ou leur ancrage dans un territoire. Et, ce qui fait notre spécificité, des groupes d'appui locaux pour soutenir l'arrivée des paysans et paysannes créatives dans le pays de leur choix. C'est un groupe constitué de voisins agriculteurs ou non, d'élus, de citoyens attentifs au développement de leur territoire.
Sur quel type de projet, par exemple ?
Alors, presque un tiers a préparé une installation en maraîchage, une quinzaine en céréales, alors souvent en vue d'une transformation en pain, une vingtaine en production laitière bovine, une vingtaine en arboriculture pépinière ou plantes aromatiques et médicinales. Les autres nous révèlent la diversité des projets accompagnés, champignons, fleurs, petits fruits, escargots, miel, lapin, poulet de chair, poules pondeuses, porcs, chèvres, moutons, brebis laitières et même des pigeons de chair. On peut d'ailleurs noter que 70 projets impliquent un deuxième atelier, transformation, accueil. Et une grande majorité envisage une distribution de ces produits en circuit court.
Et alors, c'est quoi l'agriculture paysanne ?
Ah oui, c'est vrai qu'on en parle. Alors, c'est une agriculture qui permet à un maximum de paysans paysannes répartis sur le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant une alimentation saine et de qualité sur des fermes à taille humaine, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain.
Et alors, qui sont-ils ou qui sont-elles ? D'où viennent les porteurs et porteuses de projets ?
Alors, les stagiaires accueillis depuis 10 ans avaient entre 23 et 55 ans, on a des statistiques, et ne sont pas forcément issus du monde agricole. Une quinzaine seulement a grandi dans la ferme familiale, 70 sont des NIMA, c'est-à-dire non issus du monde agricole.
Et concrètement, comment ça se passe ?
Alors, les stagiaires passent une convention avec au moins 2 paysans, paysannes référents, chez qui ils ou elles vont passer la majeure partie de leur temps. C'est l'occasion de s'immerger dans une ferme où est développé un atelier sur lequel on souhaite se former, de découvrir un territoire, le territoire sur lequel on souhaite s'installer. Puis, une dizaine de fois par an, les paysans, paysannes créatifs se retrouvent avec la chargée d'accompagnement autour de thématiques comme la commercialisation, la comptabilité, les démarches à l'installation, la communication. Et entre les journées de regroupement de stagiaires avec des apports théoriques, les moments passés avec les paysans, paysannes référentes, les groupes d'appui locaux, l'idée est de mettre en place son outil de production, de se l'approprier autour du foncier, le bâtiment, les mises en culture, le matériel, les débouchés, et finaliser son projet d'installation sur les aspects techniques de financement, de commercialisation, etc. Et quand le projet est ficelé, la SIAP propose même le portage d'activités, c'est-à-dire l'activité peut démarrer avec l'accompagnement administratif, comptable, et avec le numéro SIRET de la coopérative.
Et les groupes d'appui locaux ?
Alors oui, c'est ça. Ça, c'est une spécificité de la SIAP. Nous pensons que l'arrivée dans un territoire, ça se prépare. Des personnes du territoire sont sollicitées pour accompagner l'installation en cours. Ils ou elles sont issus du monde agricole, mais aussi de la société civile, de collectivités locales, etc. La vocation de ce groupe d'appui local, c'est de s'entourer de collègues, de futurs clients, de soutien, et de permettre l'émergence d'une dynamique collective. Le facteur du coin, par exemple, connaît tout le monde. L'élu local peut savoir à quelle porte frapper. Le voisin connaîtra l'histoire du lieu et décoincera un blocage avant qu'il n'apparaisse. « Ah tiens, j'ai besoin d'installer une clôture. Ah bah moi j'ai un voisin qui a un enfonce-pieux, je vais lui demander. Il aura peut-être même envie de donner un coup de main. » Bon, nous avons récemment animé dans les Coëvron des groupes d'appui locaux. Alors ce sont des moments où sont abordés les sujets comme la mutualisation du matériel, du foncier, de la main-d'œuvre. Et on a pu ensemble analyser le contexte avec une diversité de points de vue. On a évoqué des questions de transformation, d'approvisionnement, de débouchés. C'est en fait le pôle recherche et développement du projet. Et ces moments sont des moments où on peut affirmer son soutien au projet quand on fait partie de ce groupe. Soulever des questions en mode plus informel. Par exemple, la question de la garde des enfants avec la nouvelle organisation du travail. Bon, pour résumer, c'est une occasion pour les stagiaires de présenter leur projet, de son avancée, dans une ambiance bienveillante, avec des personnes intéressées par la réussite du projet. L'animatrice de l'événement a pu prendre des notes, relancer ou recadrer la discussion pendant que les porteurs de projet ont pu intégrer les infos qui leur sont données. Souvent, le fait de réunir un galop peut faire peur à un groupe d'appui local. peur de déranger, d'accaparer des personnes ressources qui n'ont pas beaucoup de disponibilité. Alors qu'une fois qu'ils ont été réunis, il apparaît qu'ils sont une occasion de confronter des problématiques et d'y trouver des solutions locales, innovantes. C'est l'intelligence collective en action.
Et alors, des projets en cours ?
Oui, alors un projet Alterfix Mayennais, alors qui est un peu calqué sur un projet qui a eu lieu dans la Manche. C'est une sorte de camp d'été, comme un outil permettant de faire connaître la Mayenne, alors son intérêt touristique, agricole, commercial, au sens large, pour y trouver du travail et installer sa famille. Alors la forme, ce sera 3 grands week-ends, puis un camp immersif de 15 jours, qu'on espère voir advenir l'été 2025. Alors l'Alterfix, comme on l'appelle, permettra aux porteurs de projets d'aller à la rencontre des fermes cherchant des salariés, des associés ou en projet de transmission. En gros, de rencontrer tous les acteurs d'une installation, les assos d'accompagnement, la DEARM, la SIAP, le CIVAM, Terre de Liens, mais aussi la Chambre d'agriculture, les banques, la SAFER, les CIGAL. Enfin, un site sera bientôt accessible pour en savoir plus sur le sujet. Et le premier week-end, on espère, aura lieu pendant le mois du climat 2024 dans l'agglo de Laval, le dernier week-end de septembre. Et si vous voulez, on a une adresse pour nous contacter. L'adresse mail de notre chargé d'accompagnement, c'est siap53.a2c@gmail.com. On a un numéro de téléphone aussi, si ça vous intéresse, le 07 81 55 55 40.
Merci Ronan.
Merci, avec plaisir.
La JT du local s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci à Muriel Fabre et Rocio Barras d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Ronan et merci à Lucie. Ce soir, on fait un peu de philosophie sur l'autre radio à 19h avec la sagesse de Thug. Et aujourd'hui, la question que l'on se pose, c'est l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ? À 21h, on écoute All Blues. Ce soir, une partie de l'émission est en hommage à Magic Buck qui nous a quittés la semaine dernière. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Et pour ce grand entretien de la semaine, nous serons avec Claire Duverger, mayonnaise et licenciée au club de parachutisme de Laval. Cet été, elle a décroché une médaille de bronze au championnat de France de Handy Fly. Nous reviendrons ensemble avec elle sur son parcours. D'ici là, eh bien, écoutez, restez sur nos ondes, écoutez notre musique, écoutez nos émissions. Et surtout, faites-le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.